Écoutez bien.
Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre.
Le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
La blague du jour. Une femme extraterrestre demande à son mari : t'as pas pris ta soucoupe aujourd'hui ? Non, je ne suis pas dans mon assiette.
Logo Rallye, un texte.
L'intro ?
Ah, c'est l'intro.
C'est l'intro.
Alors, excusez-nous.
Non, ça c'est la conclusion. Qui aurait l'intro ?
Qui a l'intro ? On m'a pas fourni toutes les pièces.
Tiens, elle est là.
Introduction. Extraterrestres, ovnis et téléphone maison, soucoupe volante, violente, enlèvement, martien, monde, Roswell, rencontre du troisième type, galaxie, astre, zone 51, X-Files, Alf, David Vincent les a vus. Michael Jackson, la denrée, vaisseaux spatiaux ou spacieux, complot, secret, recherche, observation, science-fiction, ufologie, espace, frontière de l'infini, Bogdanov, Superman, Men in Black, fusée, Méliès, NASA, SETI Institute, attente, crainte et espoir, Alien, Yoda, Predator, Mars Attack, Avatar, Klingon, Astronomie, Narvalo, Jacques Pradel. Vous l'aurez compris, on l'espère, nous allons parler aujourd'hui des ovnis et des extraterrestres. Mais les ovnis, qu'est-ce que c'est ? Un objet volant non identifié, généralement désigné sous l'acronyme OVNI, désigne un phénomène aérien qu'un ou plusieurs témoins affirment avoir observé sans avoir pu l'identifier, ou encore une trace qui peut avoir été enregistrée par différents types de capteurs, caméras vidéo, appareils photo, radars, etc., mais dont on ne connaît pas l'origine ou la nature exacte. Le sigle anglais UFO, Unidentified Flying Object, excusez mon anglais, fournit la racine du mot ufologue, personne étudiant le phénomène OVNI. La discipline qui en découle est l'ufologie. Dans la culture populaire, le terme OVNI est généralement utilisé pour désigner un vaisseau spatial extraterrestre hypothétique. Soucoupe volante étant aussi un terme régulièrement utilisé, ou plus rarement disque volant. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui un ufologue, M. Marc Gray. Bienvenue.
Merci et enchanté de faire votre connaissance.
Au sommaire aujourd'hui, des extraterrestres restent de l'atelier du poids des mots. Des musiques galactiques, une usine apocalyptique, un micro-trottoir intersidérant, Une minute du pôle en mode il y en a marre, des conneries d'extraterrestres aminoïdes. Un épisode du Narvalo confirme donc la théorie des cordes à linge. Un hommage à monsieur Jean de la Lune. Et une extra interview pour vous servir aujourd'hui. Nous avons Stéphane, nous avons François, les deux Rémy pour Jean-Roger, Séméré, Didier, Emmanuel, Béatrice, Sandy, Sandrine, Sandrine, Vivien et Timothée.
Alors, un premier texte de l'atelier du Point des mots, un texte de Cory. Cette entité était pour le moins un hurluberlu, ou un génie peut-être. Son apparence n'était pas uniforme. Les cheveux rouges incendies, la rage dans le sourire, les yeux fermés, des oies d'oiseau dans la tête. Il n'était pas du dernier cri, mais il inspire le repos.
La tourterelle de la vie, qui rencontre un jour de la lune sur une place ébouricienne. La robe était superbe. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, la tourterelle, sur un câble perché, s'aimait d'amour tendre. Ce n'est pas France Télécom. Simplement, bonjour, ben oui, mais t'es bien souvent sur ce banc, toi, là. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je suis un peu précaire. Je suis pas vicaire. Mais, bon, la précarité, c'est un instant de la vie. Ça passe, ça vient, ça s'en va, et ça revient. C'est ainsi que Jean de la Lune dit toujours, dort toujours au clair.
Alors nous allons vous parler aujourd'hui des ovnis et des extraterrestres. Mais les ovnis, qu'est-ce que c'est? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui un ufologue, Monsieur Marc Gray.
Bonjour tout le monde.
On vous présente comme ufologue. Est-ce le terme officiel? Qu'entendons-nous par ufologue?
C'est un chercheur enquêteur sur la réalité du phénomène ovni et extraterrestre. Ça vient de l'anglicisme que vous avez précisé tout à l'heure en début d'émission. Ufologie et non pas ufologie, parce qu'on est souvent traité de ouf, pour balayer du revers de la main la réalité qu'il y a énormément de choses inexplicables autour de nous, qu'elles soient visibles ou invisibles, et qu'elles ne sont pas forcément répertoriées par la science officielle au grand public, en tout cas. Parce que, officieusement, elle l'est.
Mais quelles sont vos missions, vos objectifs, en fait?
Alors, mes objectifs, c'est de faire découvrir au plus grand nombre, ou à ceux, en tout cas, qui s'intéressent à ce phénomène, qui est de plus en plus exploité par Hollywood, par les séries télé, et aussi sur l'ufosphère du web, parce que il y a des magazines spécialisés comme Top Secret, Science Inexpliquée, des web radios, des articles dans Nexus, dans beaucoup de magazines qui traitent de la question, et beaucoup d'autres radios comme BTLV et d'autres, Fréquence Évasion, un petit peu partout sur le web, le sujet est abordé.
Et en fait, par qui êtes-vous employé et qui vous finance?
Personne. Alors voilà, je fais un appel aux dons si vous voulez m'envoyer quelque chose. Je fais ça totalement bénévolement et c'est une passion.
D'accord.
Quels sont vos rapports donc avec le GEPAN et le CETI, des organismes internationaux de la référence?
Alors, internationaux si on veut, le GEPAN c'est une filiale sous-financée de façade d'enquête de camouflage, je dirais, puisque leur principal objectif, dépendant du CNES, donc notre NASA national, hein, qui envoie la fusée Ariane dans l'espace, quelquefois elle détecte la vase au large de la Guyane, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est un organisme que moi j'ai renommé, j'ai trouvé un nouvel acronyme pour eux qui leur correspond tout à fait. Ils sont là pour complètement escamoter le sujet et se faire passer pour l'organisme officiel unique sur Terre, dépendant du gouvernement français. Et comme on sait, en France, l'Omerta est de mise. Donc le GEPAN, pour moi, qui dépend du CNES, c'est les girouettes d'escamotage imbécile de phénomènes aériens niés en bloc.
D'accord. Et ufologue, c'est un métier à risque?
À risque, tout dépend jusqu'où vous voulez chercher le lapin blanc dans le trou, en fait, parce que il y a des vérités qui sont existentielles, qui sont liées effectivement à la clé de voûte de la conspiration mondiale et du gouvernement secret et occulte. Et effectivement, l'ufologie, la présence d'autres êtres non humains sur Terre et dans le cosmos, et le fait que nous ne soyons pas des petites souris coincées dans une boîte sur Terre, seules dans l'univers et dans les dimensions, est un frein au contrôle des populations. Donc ça peut être dangereux quelquefois, oui.
Et ne serait-ce que le risque d'être moqué, par exemple?
Ça a toujours été dans les tabloïds. Seulement, le souci, c'est que de Giordano Bruno, que vous connaissez peut-être,
Qui c'est ce monsieur?
Alors, c'était au Moyen-Âge Renaissance à Rome, il avait effectivement évoqué la possibilité d'autres planètes habitées et dans le système solaire et ailleurs, et il avait été brûlé vif par les religieux de l'époque. Et donc, de Giordano Bruno au projet Blue Book jusqu'au GEPAN, c'est une histoire, une longue histoire humaine. Et non humaine, de traces et de dissimulation de nos gènes et de la présence extraterrestre, en fait. À quoi ça sert de dissimuler tout ça? C'est pour cacher la collaboration, la rétro-ingénierie et des accords avec certaines factions extraterrestres qui nous visitent et le complexe militaro-industriel qui, comme vous le savez, en France est très présent, que ce soit du nucléaire à l'armement jusqu'aux attentats provoqués et financement du terrorisme qui permet d'aller envahir des pays et occuper des zones très pourvues en matières premières et d'asservir le reste de la planète qui ne peut pas se défendre.
Y a-t-il beaucoup d'ufologues en France et dans le monde?
Il y en a pas mal, parce que c'est très difficile de cacher au grand public ce qu'il peut observer lui-même. Donc, les gens aiment bien enquêter. Et en fait, je veux dire une chose, en France, on est un peu comme dans les pays du G8, hein, l'ufologie est infiltrée. Parce que ça arrange les gouvernants de contrôler, de garder un vivier de gens qui sont contactés, qui voient des choses, donc ont accès à ces mondes invisibles ou qui apparaissent sur certaines fréquences vibratoires que d'autres ne peuvent pas voir, et en même temps pour museler, canaliser leur divulgation et leur témoignage pour que le grand public puisse continuer à croire que c'est la soupe aux choux, c'est ridicule, ça n'existe pas, etc.
Donc êtes-vous amené à vous déplacer dans le monde ?
Alors, ça m'est juste arrivé en France pour ce sujet-là. Sinon, je reçois des intervenants dans mes conférences, alors soit sur la web radio ou dans mes dîners OVNI, qui viennent des quatre coins du monde. D'ailleurs, j'avais organisé en 2014 une conférence sur une journée et demie à Rouen. Qui avait reçu des intervenants d'un peu partout, d'Australie, de Grande-Bretagne et des États-Unis et un peu partout en France également.
Donc là maintenant, on va écouter notre micro-trottoir. Nous sommes allés nous balader dans les rues d'Évreux et nous avons posé quelques questions aux Évreuxiciens. Mm-hmm. Et suite à ça, vous pourrez rebondir sur ce que pourront dire les gens.
Super.
Si on vous dit OVNI ou extraterrestre, à quoi pensez-vous ?
Les petits hommes verts. Basique.
Bah, OVNI ou extraterrestre. Ouais, martien, quoi, l'espace.
Vert.
Extraterrestre, forcément, enfin, voilà, Mars, martien, enfin, petit bonhomme vert, voilà, tout ce qu'on veut.
Eh bah, ben, aux extraterrestres et aux ovnis, pourquoi ?
Vous voulez que je pense ?
Oui, qui vous viennent ?
Soucoupe volante, je ne sais pas. Non, pas les petits
hommes verts.
Non, pas les petits hommes verts. Non, pas les petits hommes verts. Non,
qu'ils soient verts.
Non, non.
Alors, OVNI, qui mal y pense ?
J'en sais rien.
À la soupe aux choux.
Que pensez-vous en fait de ces réponses ?
C'est des réponses très françaises, parce que si vous faites le même micro-trottoir aux États-Unis, par exemple, plus de 50% croient à l'existence d'extraterrestres. Et ici, on voit bien qu'on était bercé dans une culture du ridicule et de la moquerie pour. Mais vraiment, comme sur tous les sujets, hein, si quelqu'un critique les vaccins, les labos, le nucléaire, l'amiante il y a quelques années, la France est toujours le dernier. C'est le pays où la chape de plomb est la plus puissante, parce que notre dernier intervention. Venant d'ailleurs avant-dernier, qui s'appelait Jacques Bézone, qui a écrit un bouquin sur le gouvernement occulte mondial, qui s'appelle Arrêt du moteur de souffrance, a bien dit que la France jouait un rôle prépondérant au niveau énergétique dans le basculement vers la lumière un jour, et que c'est là où le gouvernement occulte a la chape de plomb la plus puissante. Donc forcément, on aura l'accès, le dernier, à toutes ces informations.
D'accord. Et pensez-vous être surveillé par des services officiels ? Si oui, pouvez-vous en parler ?
Je me fais pas trop de soucis, mais ni d'illusions non plus. Je ne suis pas dupe. Je sais très très bien que je suis, je dirais, écouté. En même temps, comme on m'autorise à continuer à parler, je suppose que ça sert leurs intérêts également, puisque d'une autre façon, si vous voulez, tout ce qu'on nous cache pour obtenir le consentement induit des gens, on est obligé de laisser des indices un peu partout. Ouais, c'est un petit peu comme les passeports de certains terroristes dans les voitures ou au pied de tours jumelles qui sont tombées en 2001. On laisse des indices un peu partout pour obtenir le consentement induit des gens qui sont dans la dissonance cognitive la plus complète. Dissonance cognitive, ça veut dire ils ne croiront jamais aux preuves qu'on peut leur mettre devant les yeux. Donc, ils consentent, ils sont complices énergétiquement. Donc, c'est pour obtenir effectivement ce consentement. Alors, je ne travaille pas pour la cabale au pouvoir occulte. Et en fait, je leur dis clairement que je ne suis pas complice de leurs actes malfaisants et de domination et de contrôle. Parce que c'est surtout du contrôle mental. Hein, en fait, on est dans une société qui vit sous hypnose. Quelque part. Déjà, on est dans une sorte de matrice programmée pour asservir le bétail. Parce que si on remonte à notre genèse, en fait, on a été créé pour être des aides de fonction. Si on voit un petit peu les théories d'Anton Parks et puis de Zakaria Sitchin sur notre genèse, alors des extraterrestres seraient venus pour exploiter les minerais, l'or et certains atouts que présentait la Terre, et aurait créé une créature donc par hybridation génétique déjà à l'époque, d'où nous serions issus. Et, par contre, effectivement, il y a eu un bug au départ, c'est-à-dire qu'on nous a mis des brins d'ADN qui n'étaient pas supposés être là, donc on vibre plus fort par rapport à la source, au générateur de l'univers énergétique, et on est en train de s'éveiller. Grâce, alors je sais que c'est compliqué tout ça, mais pour ceux qui n'ont pas suivi un peu ce qui se passe en ce moment, il y a un éveil qui se fait, donc tout sort de dessous le boisseau, les secrets sont de plus en plus difficiles à garder pour la caste au pouvoir, donc si vous voulez vous informer aujourd'hui, l'ignorance est un choix, parce que à l'ère de l'information, si vous ne savez rien, c'est que vous avez choisi de ne rien savoir.
Y a-t-il beaucoup d'ufologues en France et dans le monde, et êtes-vous amené à vous déplacer dans le monde ?
Non, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Il y en a énormément, oui. Ouais. Il y en a énormément. Et je ne me déplace pas beaucoup parce que je n'ai pas de financement derrière. Je ne suis pas financé par les deniers du contribuable comme le GEPAN, par exemple, qui se déplace très peu dans le monde, mais qui prétend se représenter toute l'ufologie française alors qu'ils sont là pour débunker. Pour eux, tout est une lanterne thaïlandaise, alors qu'à l'époque de Roswell, les Américains disaient que c'était des ballons-sondes. Donc ça a changé. On est passé à la Thaïlande et avant on était au ballon sonde.
Quel est le quotidien d'un ufologue ? Enfin, je pense que vous avez déjà répondu partiellement à la question.
C'est de chercher des informations, des nouvelles informations tous les jours, même si pour ceux qui sont ouverts d'esprit, ce sont plus ou moins des secrets de polichinelle. C'est-à-dire, ça sera à quel jour, quelle semaine, quel mois on va retourner la cloche qui est posée sur un secret ou un autre. Mais c'est de recueillir des témoignages aussi, c'est d'être à l'écoute des gens qui ont vu des choses, des gens qui ont eu des contacts rapprochés et qui cherchent une oreille pour les écouter, non pas se moquer d'eux. Parce qu'il y en a pas mal quand même qui ont des contacts.
Et comment se déroulent les recherches ?
Après, des fois ce sont des enquêtes terrain, des fois ce sont des interviews sur place, des fois ce sont des interviews téléphoniques ou sur Skype, ou alors ce sont des interviews radio sur le web également. Et aussi dans les conférences qu'on fait ou les émissions radio auxquelles on participe, on rencontre plein de gens.
Et comment recherche-t-on la vie dans l'espace ?
La vie, elle est partout. Donc en fait, comment recherche-t-on la vie dans l'espace ? Alors, de manière officielle, c'est-à-dire ce que nous dit la NASA et le CNES, ou alors ce qu'on sait déjà depuis longtemps, ce qui est inscrit dans nos gènes. Ouais. Parce que ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que les budgets noirs pour ces projets secrets et occultes qui existent à peu près, je dirais, depuis la Seconde Guerre mondiale, suite aux recherches des nazis, justement, qui ont été exploités après par les Américains. Il y a eu une sorte d'importation des cerveaux. Certains ont changé de nom. Je vous rappelle que Von Braun faisait partie du régime allemand et il est l'auteur principal de la conquête spatiale américaine officielle. Donc tous ces nazis ont été importés aux États-Unis et vers la Russie aussi. Ils se sont partagés les anciens scientifiques allemands. Et donc ce programme spatial secret est bien en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des budgets pharaoniques qui sont détournés. Alors ça c'est officiel. Et des budgets pharaoniques qui sont détournés non officiels. Alors ces budgets viennent à la fois des fonds publics. Parce qu'ils sont répertoriés, hein. Moi j'avais fait une émission là-dessus, concernant les budgets américains, ce sont des milliers de milliards de dollars qui sont détournés vers la recherche spatiale secrète, donc non officielle. Et celle-là, elle n'emploie pas des fusées ou kérosène qui explosent au décollage. D'ailleurs, le fait qu'on ait mis au rencard, au placard, la navette spatiale devrait vous en dire beaucoup sur ce qui se fait officieusement.
Merci beaucoup pour votre interview.
Oui, merci d'être venu vous prêter à notre exercice sur cette antenne et cette émission d'Ozone Libre. C'est vrai que vous avez un point de vue très singulier, original même, auquel nous ne nous attendions pas à explorer. Donc, bonne route à vous. Bonne route à vous.
Alors, original, mais qui s'appuie sur beaucoup de témoignages.
Voilà, je pense qu'il faut en rester là. Merci beaucoup, ouais. Monsieur.
Merci.
tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
J'arrive dans les airs. Je vois des ailes voler. Des ailes avec deux ailes. Ils m'ont dit, t'as pas vu île? Mais île sans eux. Mais c'est pas possible. Moi, je suis volatile. Forcément, j'ai des œufs. Ah, bien non. Alors, je me suis retrouvé avec île, mais c'était presque une presqu'île. Mais c'est pas possible. Ah, toi, t'es volatile. Oui. Bah, il et elle s'envolent. Au revoir, merci.
Et maintenant, nous allons vous faire donc la petite cuisine.
La cuisine en chantant. La cuisine en chantant. Alors, c'est quoi la cuisine en chantant? Ben, c'est aujourd'hui, c'est faire un magic sponge cake with cream cheese. Hein? Donc vous allez voir, c'est un dessert bien spécial. Alors, vous avez pour le gâteau que nous allons faire nécessite une préparation de 20 minutes pour un temps total de 2h40. Les ingrédients qui vont suivre sont pour 8 personnes. Alors, pour le spoon cake, 80 g de farine, 85 g de sucre en poudre, 4 œufs, zeste de citron vert, 2 cakes cuillères à café de gingembre en poudre, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium, colorant bleu. Pour le cheese cream, frottis, excusez-moi pour mon accent, hein, 200 g de cream cheese, 50 g de sucre en poudre, un demi jus de citron vert, une demi-cuillère à café à rase d'agar.
D'agar-agar.
Faut bien faire préchauffer le four, surtout, à 200 degrés.
C'est parti.
Bon, préparez les jaunes des blancs en œufs. Les jaunes des blancs en œufs. Alors ensuite, battez vigoureusement les jaunes et le sucre ensemble jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousse. Donc il faut préparer les jaunes, séparer les jaunes donc des blancs. 2. Battez vigoureusement donc les jaunes et le sucre ensemble jusqu'à ce que ce mélange blanchisse et devienne mousseux. Là, c'est pas facile de mettre des œufs comme ça, de les séparer. Hein.
Bah non, ils veulent pas. C'est ça l'amour.
C'est ça l'amour.
Ah merde, une coquille, il y a une coquille.
Pourtant, le divorce existe quand même, enfin bon. Et ensuite, vous battrez, donc vous mélangerez le sucre avec les jaunes. Et vous les battrez jusqu'à ce qu'ils deviennent, qu'ils blanchissent et deviennent. Ensuite, une fois que le mélange donc est blanchi et qu'il devient mousseux, il faut incorporer les zestes du citron ainsi que le colorant.
On va voir ce que ça donne déjà.
C'est du bleu de méthylène.
Il faut remuer tout de suite.
Oui,
c'est joli.
C'était vert. Bah, c'est avec le jaune des œufs.
Ah oui.
Donc il faut en mettre plus.
Bien, c'est un coloriste. Là, il est apprenti coloriste.
Je vais faire ton régicolor.
Oui. Est-ce que tu me feras des frisettes parce que j'ai les cheveux.
Les blancs en neige, et bien ferme. Remuer les blancs en neige, bien ferme. Donc une fois que les blancs ont été battus, donc il faut donc les ajouter donc à la pâte avec une spatule en bois sans les casser. Alors ensuite, il faut tamiser ensemble la farine. Donc la farine, donc il en faut 90 grammes. La levure, une cuillère à café de levure chimique. Donc la farine 90 grammes. Donc la levure, le bicarbonate de sodium.
Il y en a encore là.
Alors après, il faut huiler le moule à cake de 26 cm de long. Ah, c'est précisé, hein.
De combien ?
De 26 cm de long.
375 mètres !
Et 200. Alors après, il faut donc étaler la préparation dans le moule.
C'est tout.
C'est tout.
En ce qui concerne le gâteau.
Hein, ajouter la préparation et mélanger délicatement, ça on l'a fait. Huiler un moule à caille de 26 cm de long et étaler la préparation. Oui, donc là maintenant nous allons mettre le four donc à cuire, donc cuisson 20 minutes, et ensuite il faudra donc le laisser reposer pendant 2 heures, ce qui nous fait un temps total de 2h40 minutes. Bien, donc nous avons mis donc le gâteau donc au four. Maintenant on va attendre une vingtaine de minutes le temps que ça cuise. Nous allons faire le nappage sur le four, sur le gâteau. Alors, pendant la cuisson du cake, préparez le cream cheese frosting, ajoutez le sucre au cream cheese, battez le tout façon chantilly, batteur ou vigoureusement. Portez donc ensuite à ébullition quelques secondes le jus de citron vert et le l'agar-agar. Ensuite, laissez refroidir. Ajoutez donc ce jus au cream cheese, battez donc de nouveau, il faut battre beaucoup dans ce gâteau-là, hein. Battez donc de nouveau et réservez au frais. Ensuite, coupez le bord donc pour un rendu plus joli et adapté, construction d'une forme de train. À la Maryse, étaler donc le cheese cream de façon à ce que ce soit bien, lisse et net. Pour finir, c'est optionnel, hein, mais enfin, pour finir, faites un glaçage doré pour écrire TGV par exemple. Réservez 2 heures au frais, de préférence. Sortez le sponge cake quelques minutes avant de le déguster.
Nous allons écouter un texte de Vanessa de l'atelier du Point des Mots. Logorali. Un oiseau sans entité propre, un peu hurluberlu, portait un uniforme bizarre quand il poussait un cri. Il en changeait. De vêtements de pompier pour les incendies, il passait au génie, comme dans Alana. Quand il était au repos, il redevenait lui-même, fermé à tous, sans rage de vivre. Un oiseau se prenant pour un génie et reconnu comme un hurluberlu, il ne faisait que de crier avec repos et sans rage. Il se donnait apparence comme quand on porte un uniforme d'incendie, sauf qu'il ne s'éteint jamais. Il n'était renfermé. Mais on avait du mal à cibler son entité.
Les envahisseurs, avec Roy Thinnes dans le rôle de David Vincent. Les envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et un homme trop fatigué par le manque de sommeil pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé.
Ma tête s'est transformée en maladie pour attraper un contagieux en train de s'évanouir sous un rhume fiévreux. C'était la rencontre de la tuberculose émanant d'une rougeole aveugle qui donna naissance à une ampoule au pays de la foulure, une vraie brûlure sentimentale, estivale, couverte par une folie psychédélique totalement névrotique. Hé, hey, docteur, vous pouvez me faire un fond de l'œil sur ordonnance pour retrouver ma dent au fond de la gorge, près des amygdales. C'était l'alouette à l'ouette, un vol au-dessus d'un nid de piqûres dans un asile d'aliénés. Ainsi s'est déclarée ma maladie d'amour.
Les aventures du narwalo, c'est dans Ozone Libre.
Il y a bien longtemps, l'année d'après la fois d'avant, dans un âge assez moyen, sur une terre assez lointaine, probablement entre Toulouse et Castelnaudary, bref, en moyenne ovalie d'Europe occidentale. Les rois mages en Galilée sont allés, donc on mange la galette. Problème, la fève a disparu. Comment vont réagir le narwalo, Derrick, Lancelot, Navari, Brooke, Yodinde, Zan Zen Luang, Vivi la nymphette et Gadget?
Quel est le moule à gaufre qui a luposucé la fève sans s'en vanter? Qu'il se dénonce immédiatement ou se taise à jamais?
Bah, êtes-vous sûr qu'à l'origine il y avait une fève?
Je ne me rappelle pas avoir mangé galette. Il y en avait-il une réellement?
Ça avait un goût de frangipane, donc c'était une galette à fèves.
Bah, prouve-le, à ce compte-là, ça pourrait être n'importe quoi à base d'amandes. Comme des amandes, un PV de Marie Pervenche ou de la colle Cléopâtre.
Mais c'est un putsch! Je ne supporterais pas devoir remettre ainsi en cause mon autorité divine. Il va vous en cuire.
Sur ce, le narwalo sort son désormais célèbre rouleau à pâtisserie laser. D'ailleurs, c'est étrange. Tout le monde sait que le rouleau à pâtisserie n'a été inventé qu'en 1788 par Roland Rouleau, petit-fils de Roland de Roncevaux. Bref, de rage, par précipitation et par manque de maîtrise première année de la fougue, le narwalo se coupe la main. Elle en profite pour filer en crabe la main.
Go go gadgetto, main de remplacement.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Je n'avais plus de pied en magasin. J'ai fait ce que j'ai pu. Et tu verras, au foot, c'est un avantage considérable d'être trépied. Mais juste au vrai foot, hein, pas à FIFA.
Mince, c'est pas le pied. Et puis c'est rien que de votre faute. Je vais m'enfermer au château pour me faire vibra-conférencer. Qui même me suivent.
Attention, ne tombe pas dans les douves. Tu risques de ne pas avoir main. Pied, pardon. Tu risques en plus de croiser un wani.
Un quoi? Un oignon anarchiste nord-illuminati.
Mais non, c'est dans le manuel de Greg Gray. C'est un objet aquatique non identifié, genre manodou.
Ceci est un schisme sioniste. Scissioniste, pardon. Oula. Ceci est un schisme scissioniste. C'était pas l'émission pour dire ça.
Bravo.
Séparatiste bipartite. Dans le château s'installe le narwalo, Derrick, Lancelot et Navari. Le siège s'organise, mené par Yodinde, suivi de Brooke, Vivi, le moine Zan Zen Luang et l'inspecteur Gadget. Il va bien entendu maintenant être question de polyorcétique.
Bah, grâce à ma dindinique, je maîtrise l'art de la polyorcétique.
Qui? Tu es malade? C'est contagieux la polio? Je suis sceptique.
Bah, pas la polyorcétique, la polyorcétique. Les arts guerriers du siège persan. J'ai une idée pour combattre ces satanés soukites, des guerriers antiques passés du côté obscur de la fougue. On les reconnaît à leur ridicule tunique noire à carreaux blancs.
Alors que nous, nous sommes élégamment vêtus de tuniques blanches à carreaux noirs.
Bah, c'est pareil. Nous sommes du côté lumineux de la fougue. Nous sommes des chevaliers laides, basse consommation des croissants.
Alors comment va-t-on les déloger suivant les principes de la polyorcétique?
On va utiliser le 69e principe de la polyorcétique. Écoutez-moi, jouez sur la corde sensible en mi bémol majeur. Grâce à une chatte, nous allons catapulter des animaux mignons par-delà les fortifs. Nous allons ramollir les âmes sensibles, des sous-kits mieux que du caramel au micro-ondes, pour les faire revenir sans matière grasse du côté lumineux de la fougue.
Oui, mais oui, comme les dessinateurs qui passent des tests bucoliques avec Pamela Anderson Bardot.
Faites entrer les animaux. Des lol chats, des lol dauphins, des lol suricates et des lol écureuils.
Oui, et des lol bichons, des lol koalas, des lol pandas, des lol phoques, des lol poneys et des lolos capiques.
Et des lol kangourous.
Ah non, je crois que c'est méchant, un kangourou presque autant qu'un perroquet. Ou alors sans les mains comme un perroquet.
Ainsi se termine cet épisode numéro 333,5 millions du Narvalo. Sans oublier celui qu'on a perdu, et que nous retrouverons peut-être par hasard, sait-on jamais. Cet épisode est sponsorisé par la Fondation Brigitte Bardot, la SPA, Arlette Amalibu et le chirurgien de Pamela, qui restent contre tout gavage, bourrage ou rembourrage. Mais que vont devenir les gentils animaux ? Le fondement de Brigitte Bardot est-il d'accord pour qu'on insère des animaux à partir d'une chatte ? Et surtout, pourquoi les kangourous sont-ils si méchants ? Pour le savoir, rendez-vous tout pile dans un mois pour un nouvel épisode lunaire, voire interstellaire du Narvalo. Le jeudi 25 février à la même heure, à quelques nanosecondes près.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Oui, alors je vais vous demander comment vous les décririez.
Petit.
Petit.
Et pas très... Entre les... Très peu, oui, petit, mais la grosseur, le poids, moyen. Très peu, très moyen.
Et au niveau tempérament ?
Je peux pas vous dire, je suis pas l'omni.
Comment vous imaginez ?
Humanoïde.
Humanoïde.
Humanoïde. Méchant ou gentil ?
Alors ça, c'est bien, ça c'est la grande question, aucune idée.
Aucune idée, d'accord.
J'en ai pas rencontré encore, donc je ne sais
encore.
Pas.
Pas encore ?
Je n'imagine même pas du tout.
D'accord.
Non, vraiment pas, non. Pas d'idée.
Pas d'idée ?
Petit et vert.
Aucune idée. Petit et vert. Voilà, parce que c'est l'image commune.
Thérèse, bah... C'est pas les gens qui vivent en dehors des mines. Bah, j'espère qu'ils ont pas ma tronche. Est-ce qu'on peut les imaginer physiquement déjà, pour commencer ?
Non.
Des flux luminescents, des trucs, ouais. Des bidules qui se baladent, des amibes, des machins.
Ouais, pas une enveloppe humaine.
Non, non, ça c'est nous on est primaires. Nous, on est sans du sang, hein, ça se voit.
Je les imagine pas parce que j'y crois pas.
Un bonhomme avec des grandes antennes et sans habit.
Ouais.
Et sans nombril. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre ?
Sans nombril, donc il a pas de mère.
Voilà. Et puis voilà, je sais pas, de couleur bleu et rose.
Alors si on entrait en contact, à votre avis, quelles seraient leurs intentions ?
Moi je suis méfiante de toute façon, moi je me méfie de tout le monde, alors je serais déjà sur mes gardes quand même. On voit trop de choses, ouais, je sais pas, c'est peut-être ça serait pas mal, on pourrait communiquer au lieu d'avoir internet. Vous ne pensez pas?
Je sais pas, pacifiste, ouais.
Okay.
J'espère.
Sympathique.
D'accord. Aucune idée.
Pacifiste, ouais. Ou...
Je sais pas. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Ils nous ont ignorés jusqu'ici, donc voilà. On va laisser en l'état.
Faire connaissance
ouais.
Avec nous.
Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils veulent pas nous connaître. Parce que c'est depuis le temps, il y a longtemps qu'ils auraient pris contact avec nous, non ?
Ouais.
S'ils sont là.
Alors, déjà, il lui fait lui. Imaginez qu'ils puissent nous rencontrer. Peut-être sont-ils présents.
Oui.
Et que nous l'ignorons.
Aussi.
Oui. Pacifiste, on va dire ça.
Découvrir ce qu'est la condition humaine.
Qui ?
Bienveillant, ouais.
Oui.
Oui. Ils n'ont pas d'a priori. Enfin, ils veulent juste savoir.
Donc, s'ils vous invitent à monter dans leur vaisseau.
Non. Je monte déjà pas dans une voiture comme ça. C'est pas pour monter dans un vaisseau. Non.
Pourquoi?
Parce que je ne suis pas les gens comme ça. On sait jamais. Ils vont laisser des traces après.
Je sais pas, je me méfie un peu quand même.
Ouais.
On sait pas.
On sait pas.
Ouais.
Quand même.
Oh, par curiosité, oui, pourquoi pas. Oui. Je suis pas sûre d'y aller. Mes parents m'ont dit qu'il fallait pas monter dans les voitures des inconnus.
Alors, vaisseau spécial. Ouais, bah ouais, moi. Je sociable. Hein. Donc,
bah, j'irai pour découvrir,
ouais.
Pour voir ce que c'est.
Je vous montrerai tout de suite.
Okay. Et enfin, si votre fils ou votre fille vous disait qu'il veut se marier avec un extraterrestre, comment réagiriez-vous?
Très bien.
Très bien.
Oui, c'est une bonne idée.
Et s'il vous invite pour le mariage?
Ah bon, je vais avec cœur, comme ça je n'ai jamais utilisé. J'irai avec cœur.
D'accord. Merci beaucoup.
Bah déjà là, je suis sceptique. Non, mais moi je suis méfiante de toute façon. Alors, voilà quoi.
Je suis pas raciste. Ça dépend de ses intentions. Faut voir. C'est comme pour les autres. Hein. C'est comme pour les autres. Faut voir. Hein.
Oui. Hein, ça dépend de du confort de son véhicule spatial, peut-être.
Non, pas forcément. Non. De ses intentions, on va dire. Comme pour les humains. Voilà, même principe.
Oui.
Voilà, pourquoi?
C'est encore plus bizarre comme question. Je sais pas. Donc tu l'as, non. Franchement, je sais pas, fais ce qu'il veut. Hein. S'il y a des extraterrestres, ouais, déjà c'est un problème. Ça.
Ouais. Mais bon, voilà. D'accord, ok.
Ça dépend. Faudrait qu'il me le présente d'abord. Voilà.
Bon alors. Je pense qu'elle aurait pris son passeport pour partir avec. Quoi.
D'accord.
Non, pourquoi pas?
Pour le fun, ouais. Mais ouais. Sinon, non.
Pour avoir une salaire oui, sympathique.
Oui, c'est ça. Mais sinon, non. Et juste original. Pour la cérémonie, hein, c'est tout. Mais après, sinon, non, pour la vie de tous les jours, moi, je crois pas.
Divorce après, alors.
Ah ouais, mais juste après, le lendemain.
Bah, au début, ce serait dur, mais je l'accepterais.
Oui.
Voilà, c'est leur choix.
Pourquoi tu l'as tapé?
Parce qu'il m'a traité d'hurluberlu et d'autres noms d'oiseaux.
Mais c'est pas un oiseau, l'hurluberlu.
T'es sûr?
Bah oui.
Ah, bah autant pour moi, non. Non, parce que moi, je peux pas blairer les oiseaux.
Donc s'il t'avait traité de colibri, alors là, t'aurais trouvé normal de le taper.
De colis quoi?
Bon, laisse tomber, je vois que j'ai affaire à un génie. Mais bon, pour être honnête, quand je t'ai vu débarquer avec ton uniforme, je te cache pas que j'ai eu un a priori, mais là, tu me confirmes, hein, ma première impression.
Non, mais ça, c'est mon uniforme de défilé, c'est pour le tralala, tout ça. Mais en fait, je suis pompier. Un incendie, un animal à sauver, et je suis là. Enfin, sauf pour les oiseaux, parce que ça, je peux pas les blairer.
Ouais, ça, j'avais compris.
Et toi, tu fais quoi comme boulot?
Moi, je travaille au crime.
Ah, t'es flic, la police criminelle?
Non, le crime, le centre de recherche et d'investigation des manifestations d'entités.
Quoi?
On recherche des entités inexpliquées, comme les poltergeists.
Les polters quoi?
Bon, les fantômes, quoi.
Ah, Ghostbusters, bah, trop classe.
Non, mais oui, mais nous, c'est sérieux.
Ben, Ghostbusters aussi, ils ont sauvé New York, quand même.
Oh non.
Ben, qu'est-ce que t'as?
C'est un cri de rage.
Ah, t'as la rage?
Ouais, j'ai la rage, t'es tellement con.
Oh, mais dis donc, ça va, tu me parles comme ma femme.
Tu veux pas la fermer?
Fermer quoi?
Bon, ok, repos soldat et bon courage à ta femme.
Les envahisseurs avec Roy Thinnes dans le rôle de David Vincent. Les envahisseurs. Des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée, et un homme trop fatigué par le manque de sommeil pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé.
Des extrêmes extraordinaires existent pour des excuses sans exception. Lors d'un examen, tout ça pour expliquer des excès exempts.
Et maintenant, la minute du pôle. Donc, pour continuer sur des conneries, il y en a une qui tourne depuis plusieurs années sur Internet, qui est un tableau comparatif entre deux familles, de cinq personnes, une famille au RSA, une famille au SMIC. et qui raconte, c'est un tableau qui a été fait par un certain monsieur Reynald Pais à partir d'infos brutes trouvées sur les sites du gouvernement. Donc ça raconte en gros que les gens au RSA s'en sortent beaucoup mieux que les gens qui travaillent, hein, les smicards, étant donné que cette famille au RSA, et à la fin du mois, une fois qu'elle a tout réglé, il lui reste 1113 € pour les loisirs, et alors que les salariés, il leur reste 614 €. Ce qui en effet est peut-être pour certains vu comme injuste. Donc il faut préciser que ce tableau, c'est complètement con. Voilà. Alors je le dis d'autant plus que je suis assistant social et que j'ai accès un petit peu à toutes ces infos. Donc ça a été fait n'importe comment, avec des données brutes, on veut bien le croire, mais c'est plutôt le mec qui a fait le tableau qui est une brute. Mais voilà, en gros, il oublie pas mal de données et puis il en rajoute un peu d'un autre côté. La première chose, mais ça peut intéresser les gens en même temps parce que ça donne, par contre en corrigeant, on peut donner des vraies infos, c'est qu'il existe le RSA activité, qui peut être donné à des gens qui travaillent, mais qui ont des faibles revenus. Et donc, sur une famille de 5 personnes avec un salaire de 1200 € comme c'est sur ce tableau, la famille peut toucher un complément de revenu par le RSA. Si vous êtes dans cette situation, rapprochez-vous de la CAF. Ensuite, alors c'est ça qui est bien, c'est qu'ils retirent des revenus à la famille au SMIC et ils en rajoutent évidemment à celle qui est au RSA. Le calcul d'APL est complètement faux. Le calcul de RSA est faux, car il ne prend pas en compte les APL, alors que... Dans le monde réel, les APL sont prises en compte. Également, ils ont rajouté de la prime de Noël, et puis ils ont fait n'importe quoi avec les allocations au logement. Voilà. En gros, après, ils parlent de la CMU, comme quoi la famille au SMIC est obligée de se payer une mutuelle alors que les gens au RSA ont la CMU. C'est également faux en ce qui concerne ce tableau, puisque la famille qui perçoit 1200 € par mois avec 5 personnes peut prétendre également à la CMU complémentaire, etc. etc. Donc c'est que des conneries. Les gens qui partagent ça, finalement, ils lisent ce qu'ils ont envie de lire, même avant de vérifier. Puisque il y a ATD Carmont, l'association qui a refait les calculs, et qui constate en fait que la famille qui vit du SMIC avec une partie de RSA gagnerait 25 812 € par an, évidemment, et aurait des dépenses de 8 940 €. Donc il resterait 16 872 € par an, soit 1 406 € par mois pour se nourrir, se vêtir, se divertir. Et pour la famille qui vit du RSA, ce serait un revenu de 18 560 € par an avec les mêmes dépenses, et donc il resterait à peu près 800 € par mois pour se vêtir, se nourrir et se divertir. Donc merci d'arrêter de faire tourner ce genre de choses dégoûtantes.
L'émission se termine, nous allons faire la conclusion. Nous espérons que cette heure passée en votre compagnie et en notre compagnie vous aura informé et diverti. Nous remercions encore une fois Marc Gray, ufologue, cosmogonie et exobiologie, aussi compliqué que son discours, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Pour être franc, nous sommes surpris du résultat. Tout raisonnement scientifique doit s'étayer de preuves scientifiquement irréfutables. Prochaine émission le 25 janvier, jeudi, dès 12h30. D'ici là, vous pouvez trouver les podcasts de nos émissions sur la page Ozone Libre sur www.principactif.net. Nous vous remercions de votre écoute et remercions comme toujours l'équipe de Principe Actif, l'immense JC, le gigantesque Damien et l'exponentiel Timothée.
La chanson de la famille, c'est le dos d'Orifort, au domicile de Docile, au gré du ré récalcitrant de la rêverie. avec le mi-mirage, mi-figue, mi-raisin et mi-rifique, le fa familial, facile faciès, sur un sol de solfège, soltice, soliloque et solitude, au son du fa fatifundia de la laque, et encore ainsi, simulacre d'un sisturien simultané.